RMC, cours numéro 1.
You cannot be serious! That ball was on the line!
Ça sort, c'est fini! La France remporte la Coupe des Villes! Allons!
Anthony Reich.
Salut à tous, bienvenue dans cours numéro 1, votre podcast tennis sur RMC, évidemment disponible sur toutes vos plateformes de téléchargement. N'hésitez pas, comme toutes les semaines, à vous abonner à la chaîne de cours numéro 1 sur toutes vos plateformes, comme ça vous ne louperez rien de nos futurs numéros quotidiens, épisodes quotidiens pendant la quinzaine de Roland-Garros cette semaine. Un numéro exceptionnel, les amis, puisque nous sommes en public au défilé Renault sur les Champs-Élysées à Paris, à un peu plus de 2 semaines du début de Roland-Garros. Et pour l'occasion, on a un casting exceptionnel. 5 étoiles, messieurs, dames. La première à entrer sur le court, elle a rendu folle nombre d'adversaires dans l'antre du court 10. L'ancien court 10, et oui, avant les travaux qui étaient à la place de l'actuel village, si vous êtes habitué de Roland. Il y en a qui ont piqué des crises de nerfs face à toi. Salut Massara, salut Sarah Pitkowski.
Bonjour à tous, salut Anto.
Ouais, hein, t'aimais bien ce court 10. Hein. Le cours où tu as le plus joué, je crois, à Roland.
Oui, absolument. Absolument. Ouais, non, là où j'ai le plus joué, il n'y avait pas
le. Il y avait quelques balles en cloche.
Ah bon?
Non, pas trop.
Je ne me souviens plus.
Le deuxième. Le
oui,
deuxième.
Mais c'était pour que ceux du central ils puissent voir les échanges.
Ah, voilà. Voilà. Comme il n'y avait pas le toit sur Châtrier, on pouvait se tourner et regarder Sarah Pitkowski.
Voilà,
c'est ça. Retourner le cerveau de ses adversaires. Le deuxième à entrer sur le cours, eh bien lui, il a connu par 2 fois. Les hauteurs d'une 2e semaine à Roland. Et oui, on s'en souvient même plus tellement c'était c'est si rare aujourd'hui. On ne sait plus ce que c'est cette saveur, mais il nous a fait vibrer. Il y en avait une en 2006, c'était en quart de finale face à Ivan Ljubicic et un autre 8e de finale face à Roger Federer. Salut Julien, salut Gimeneto.
Salut Anthony, salut tout le monde.
C'était des bons souvenirs ça, hein.
Ouais.
Sacrées épopées. Hein.
Ah, c'était toujours Roland-Garros, une époque et un moment dans l'année particulier. Et puis c'était une époque aussi où en 2008... On était 5 Français en 2e semaine.
Ouais, grosse quinzaine de nos Frenchies cette année-là. Le 3e, entré sur le court, il te regarde. Alors lui, il prend sa calculette tous les matins au petit-déj en ce moment. Vous savez pourquoi? Parce qu'il regarde les points que pourrait gagner Arthur Fils, qu'il pourrait perdre et savoir le potentiel classement de notre numéro 1 français, 16e, 17e, 14e, 12e, 13e, on ne sait plus. Salut mon Rico, salut Eric, salut.
Salut à tous, mais... Je crois que l'un des meilleurs souvenirs de Julien Beneteau, moi je m'en souviens personnellement, c'était un match... quasiment en night session sur le Linglen contre un finaliste de Roland.
Ouais.
Je me trompe?
Non, c'est l'année où je fais 8e en 2008 contre Söderling.
Ah, oui. Söderling, ambiance de folie.
Ouais. Je suis mené 6-1, 6-5 service à suivre. Et je perds plus un jeu, je fais un 6, 7, 6, 6-0, 4-0 et je gagne 6-1 le 4ème. Et ouais, ambiance de dingue, il y avait que. À l'époque, il n'y avait pas Night Session, mais il pleuvait, il brouillait.
Ah, ça, on aimait ça.
Voilà, il n'y avait que les vrais qui sont restés jusqu'à la fin. Ils ont rendu fou ce Söderling.
Allez, les copains, au menu de cours numéro 1 cette semaine, un épisode exceptionnel ici aux Champs-Élysées. Eh bien, on va évoquer plusieurs thèmes. Tout d'abord, vainqueur sans partage du Masters 1000 de Madrid. Eh bien, le titre tend-il les bras à Yannick Sinner, le numéro 1 mondial, Alexander Zverev ou Arthur Fils pour être le deuxième homme fort de la quinzaine de Roland. Vous nous donnerez votre avis avant Roland-Garros. Nous nous poserons aussi cette question qui fait mal en tant que Français. Pourquoi on est si mauvais sur terre battue? Allez, c'est parti pour cours numéro 1. Avec une invitée surprise, chers auditeurs, elle est arrivée un petit peu plus tôt. Elle avait envie d'être avec nous, évidemment. Vous l'entendez tous les dimanches soirs entre 19h30 et 20h30, c'est Marion Bartoli. Salut Marion.
Salut les amis.
Salut Marion.
Comment ça va?
Et toi?
Salut Marion.
Bah écoute, on se remémore les souvenirs de Roland, ça fait toujours plaisir. Ça te redonne toujours le sourire.
Ah, il avait été fort hein, ces années-là, Julien.
Très fort. Et en plus, les années, on les a joués ensemble, donc je m'en souviens parfaitement de ces matchs. Parfaitement.
Ouais, c'était les grandes époques. On parlera de ces 2e semaines à Roland dans cet épisode de cours numéro 1, les copains. On va commencer par le numéro 1 mondial qui a impressionné, qui, en l'absence d'Carlos Alcaraz, a écrasé la concurrence à Madrid. Tu y étais, Marion. Bon, il a évidemment fait une finale exceptionnelle et surtout, Alexander Zverev n'a pas existé en finale. On va commencer avec toi, Sarah. Est-ce que le titre, tout simplement, lui tend les bras? C'est la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui. À Roland-Garros.
Parce que tu penses que je vais te dire non.
Je ne sais pas.
Mais je ne vois pas comment.
Moi, je lance le débat.
Je ne vois pas comment c'est possible aujourd'hui.
Ah, elle nous a tué le tournoi déjà, ça.
Et 15 jours, c'est long.
Alors,
un chelem, c'est long.
Oui, c'est long. Alors, il peut effectivement, il peut y avoir des petits soucis, peut-être sur les, allez, sur un tour où il peut avoir un peu plus de mal. Mais aujourd'hui, je vois pas comment on peut dire que le tournoi ne lui tend pas les bras quand on voit ce qu'il est capable de faire sur terre battue, l'amélioration de son jeu sur terre battue, et puis parce que son principal adversaire n'est pas là. Donc, avec beaucoup de pragmatisme, oui, je pense que ça lui tend les bras et il le sait très bien. Il le sait très bien qu'il est l'ultra favori et qu'on l'attend en finale et lever la coupe. Il le sait. Et peut-être que c'est peut-être ça le petit point faible, c'est de savoir si dès les premiers tours.
Tu vois qu'il y en a des choses quand même.
Ah, on y arrive.
C'est vrai,
il est fragile hein, psychologiquement aussi. Il est super fragile. Hein.
Franchement, il l'a
montré. Non, il y a un peu de stress. Suffit qu'il soit, il fasse un peu humide les premiers temps. On sait très bien que les premiers tours, avec le temps, tu peux perdre en route quelques sets, tu vois, avec un peu de stress. Je ne dis pas qu'il ne va pas et qu'il va perdre. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi enfiler le costume du favori.
Sur les deux premiers Masters 1000 de la saison sur Terre, ouais. Il a perdu un petit set au début à chaque fois.
Ouais.
Face à Maratch et face à Benjamin Bonzi à Madrid. Tu trouves qu'il a progressé, Julien ? Et est-ce que tu penses que là, il va arriver avec l'énorme pancarte, c'est même plus une pancarte, là, c'est un écran géant d'ultra favori. Est-ce que ça peut lui peser ?
Alors, non, la pancarte d'ultra favori, je ne crois pas que ça le pèse parce qu'il n'est pas fait comme... Il n'est pas fait comme les autres. Il fait partie de cette case des très, très grands champions qui ont l'habitude d'assumer leur rôle. Mais mentalement, moi, pour moi, la plus grande force qu'il a prouvée, c'était l'année dernière quand il perd à Roland avec ses 3 balles de match et qu'un mois après, il gagne Wimbledon contre le même adversaire en perdant le premier set dans des circonstances et il lui met 3-7 derrière. J'ai trouvé ça d'une force remarquable. Voilà, oui, après, moi, c'est l'ultra favori, etc. Mais pour moi, c'est pas gagné. C'est pas comme Nadal. Certaines années, on se disait bon là, ça.
Donc ça veut dire que.
C'est plié.
Donc ça veut dire que tu penses qu'il y a des joueurs qui peuvent le battre aujourd'hui. Alors vas-y, donne-moi la liste.
Alors, il faut beaucoup de concours confiance.
Voilà. Oui. Ok.
Il faut que ce joueur-là soit en très grande forme et dans un très grand joueur.
Ok.
Si on lui a très mal parlé ses raquettes, qu'il n'y reste plus qu'une raquette dans le sac et que.
Ah ben voilà Marion.
Non mais j'enlève ZRF, mais non. Je suis désolé, mais un grand Mouzetti sur Terre, on ne sait pas
ouais,
ce que c'est.
Tu sais quoi, je pensais la même chose que toi, mais là sur Terre, ça moi Mouzetti, je le trouve décevant. Ouais. La saison sur Terre, tu as raison. Tu as raison dans l'absolu.
En fait, Mouzetti, il est pas au rendez-vous dans son élan depuis sa blessure à l'Open d'Australie.
Exactement.
Et voilà. Non, il y en a un, pour moi, je ne peux pas l'enlever de l'équation.
Mais c'est Novak.
Bah, et voilà, merci
Marion. Bah oui,
mais on y va tous.
Lui, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Mais je pense qu'il y en a un qui se frotte les mains depuis qu'Alcaraz a le poignet dans la boîte à gants. C'est Djokovic, exactement.
Mais c'est ce que j'ai dit dimanche avec Sarah dans l'émission.
Partially Time.
Oui, ouais, absolument.
Oui, Marion, toi, tu étais à Madrid, tu l'as vu de près, Yannick Sinner.
Ouais.
On va évoquer Novak Djokovic juste après, mais est-ce que tu sens qu'il a progressé sur Terre, déjà ? Il a plus d'armes, on le voit quand même. Il manipule beaucoup plus de façon assez rentable la mortie, par exemple. Tu le sens meilleur sur Terre ?
Alors, ce qui m'inquiète, surtout ce qui m'inquiète pour les autres, c'est que j'étais à Miami sur sa finale contre l'HK.
Ouais.
Et donc là, j'étais bord de terrain à partir de son match sur Rodar. Et j'ai l'impression que déjà, en ce laps de temps, il a progressé. Donc, autant te dire que sur un an, effectivement, les progrès sont énormes. En fait, ce qui est monstrueux, je trouve, c'est que... Et c'est pour ça que la finale contre Zverev... Alors, OK, on peut dire que Zverev, effectivement, passé à côté. Et d'une certaine manière, oui, bien sûr qu'il est passé à côté. Mais le problème, c'est qu'il joue 30 km/h plus vite que tous les autres adversaires que Zverev avait eu à jouer avant cette finale. Donc, en fait, Zverev, il se retrouve en finale. Et il a un pas et demi de retard, voire deux pas de retard sur toutes les balles. Donc, il est 4 mètres derrière la ligne en train d'essayer d'absorber la puissance de frappe, en train d'essayer de tenir, en train d'essayer de remettre de la longueur. Sauf que soit, en fait, il craque très vite à l'échange en ratant parce que tout simplement il est en retard et on s'est tous retrouvés dans cette situation-là et ça devient très dur de contrôler la balle. Soit il joue beaucoup trop court et t'as Sinner qui rentre dans le terrain, qui te fait une amortie ou qui monte à contre-temps, enfin qui déroule complètement son jeu. Donc c'est pour ça qu'effectivement, moi, quand on a fait ce débrief de Madrid avec Sarah, j'ai tout de suite pensé exactement comme Julien. Le seul qui a été capable de tenir sa ligne, de tenir la cadence, d'absorber la vitesse de frappe et de rediriger le jeu très vite dans les longues lignes, ça a été Novak pendant 5 heures à l'Open Australie. Alors, est-ce qu'il sera capable de le faire sur Terre? On ne l'a pas vu jouer sur Terre. Pour l'instant, il n'a pas fait un match, donc c'est très difficile de répondre. Mais je ne vois pas, très honnêtement, aujourd'hui, un autre joueur capable techniquement de faire ça. Je ne vois pas Félix Auger-Aliassime être en capacité de le faire. Je ne vois pas Shelton être en capacité de le faire. Je ne vois pas même Moussetti. Je trouve que ça... Alors, la balle de Sinner est trop lourde, c'est trop long, c'est trop profond, c'est trop rapide pour qu'en revers à une main, il y arrive. Donc, effectivement, sauf concours de circonstances. Alors, on l'a vu un petit peu contre Arthur. Parfois, la hanche qui grince un peu. Parfois, il peut faire peut-être très, 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 très chaud. On l'a vu contre Benjamin sur un premier tour où c'est un peu coincé. Mais regarde l'Open d'Australie, tu vois, même quand il fait 45 degrés, bon, au final, il ferme le toit, et puis au final, c'est quand même lui qui passe. Donc, à Roland-Garros, il ne va quand même pas faire 45 degrés non plus. Mais là où je rejoins effectivement Julien, c'est qu'on ne se dit pas, comme avec Rafa, dans ces très, très grandes années, bon, finalement, en fait, c'est savoir combien de sets il va perdre, quoi. Le jeu, c'est savoir, il va perdre un set, deux sets, 0-7, voilà. Il y a effectivement ce point d'interrogation de Novak, mais très honnêtement, là, sur la planète tennis actuelle, je ne vois pas un autre joueur en capacité technique d'arriver à lui résister pendant un grand chelem entier parce que ça va tout simplement trop vite. C'est trop vite, c'est trop lourd. Il a progressé encore au service. Quand tu vois sa finale au service, c'est 220 tout le temps en première, hyper proche des lignes, 70-75% de première, ça descend jamais. Au retour,
c'est un métronome.
Attends, au retour, Zverev, c'est quand même pas, tu vois, il t'envoie pas des fléchettes, quoi. Il sert quand même bien. Il retourne à chaque fois 50 cm la ligne de fond. L'autre, il se prenait un retour dans les pieds à chaque fois. Chaque fois. Donc, tu ferrailles à chaque fois alors que tu as l'impression de servir. Normalement, tu es à l'aise sur chacune de tes mises en jeu. Contre Sinner, tu n'es jamais à l'aise, en fait. Tu es tout le temps mis en difficulté. C'est ça qui est très, très compliqué.
Eric, toi, tu as une stat qui peut perturber la donne.
Je vais la sortir après. Mais n'oubliez pas quand même qu'il a eu deux miracles sur les deux derniers grands chelems qu'il a gagnés. À Wimbledon, contre Dimitrov, il était submergé. Et à l'Open d'Australie, tu fais allusion à ce match où il y a eu une interruption, mais tombée du ciel. Ça s'est joué à 20 secondes, puisque l'indice de chaleur... n'oubliez pas
l'Américain, là.
Oui, l'indice de chaleur a été déclenché par le juge arbitre, on ne sait pas trop comment, d'ailleurs. Juste au moment où il fallait. Sinon, il ne s'en sortait pas. Ouais. Il était sorti sur une civière, Yannick Sinner. Faut pas lui dire.
Oui, il crampait et tout.
Mais il crampait. Et donc, l'autre stat, oui, on la connaît tous, mais il faut la rappeler aux auditeurs, il a perdu tous les matchs qui ont dépassé 3h55. Alors, vous allez me dire, qui est capable, de
le ramener là.
Je suis d'accord. Oui, et on est en train de dire que chaque tournoi, chaque semaine, il progresse. Donc, en fait, les défauts qu'on lui a peut-être trouvés ou les faiblesses qu'on lui a trouvées, en fait, tu as l'impression qu'à chaque fois que tu le retrouves, il a gommé ses défauts.
Ah, mais c'est un bosseur fou.
Et d'ailleurs, je crois que je l'ai entendu dire, mais je crois que c'est dans son discours à la fin du tournoi à Madrid, où dans une interview, il disait que les sacrifices qu'il fait au quotidien, sont monstrueux. Je pense qu'il y a, et ça m'a fait tilt, il n'y a pas un écart.
Il nous a dit pareil.
Et quand j'ai entendu cette phrase-là, je l'ai tout de suite mise en opposition avec Carlos Alcaraz, qui a un autre rythme de vie, qui vit son tennis et qui vit sa carrière différemment. Vraiment. Et là, tu te dis, dans 10 ans, on fait les comptes. Dans 10 ans, on fait les comptes. Et quel est celui qui ton rythme de vie qui t'emmènera le plus loin?
Exactement.
Juste
pour finir là-dessus, c'est quand même, il y a un truc au-delà des stats et l'amener en 4 heures de jeu. Et c'est vrai qu'il y a eu, entre guillemets, deux miracles. En règle générale, quand même, sur la durée d'un grand chelem, 15 jours, 7 matchs.
Jouer 7 matchs parfaits.
Ça n'existe pas. Marion, tu as gagné Wimbledon, tu as fait une autre finale. Tu n'as pas fait 14 matchs parfaits.
Non, bien sûr que non.
Ça veut dire que... Alors, il a toujours cette marge. Mais est-ce que je dis n'importe quoi, un jour où il est moins bien, il fait 25, 28 degrés, 30, la terre elle est hyper sèche, il n'est pas sur le Châtrier, il est sur l'Anglaine qui est plus petit, il joue Shelton qui est en chaleur absolue, avec un autre style de jeu complètement agressif. Est-ce qu'il ne peut pas se faire embêter? Oui. Ou est-ce qu'un autre type
mais perdre
3-7,
j'ai du mal à le voir.
Alors voilà, là-dessus, tu as raison. Alors, est-ce qu'il peut y avoir une accumulation à un moment donné qui va faire que, comme en Australie, où il a peut-être perdu un peu des plumes contre
ce fameux Américain,
Tien,
etc. Voilà. Et qui derrière, bah, quand il arrive en demi, c'est lui qui coince. C'est
non,
pas Djoko qui a
38 ou c'était Spiretti.
Spiretti, ah, Spizzieri.
Ouais.
Vous avez dit tous les noms là. Il y en a pas.
Spizzieri. Non, mais bon, c'est italien. Là. Italien américain. C'était pas tienne, en tout cas, c'est sûr que c'est pas.
Spizzieri,
j'ai cru. Enfin, j'ai. Donc, finis ton idée, t'as été coupé. Non, c'est bon.
Non. C'est...
Alors, ce qui nous amène au débat qui en découle.
Bien sûr.
Très bien que Yannick Sinner, voilà, il va aller marcher vers le 7 juin prochain et la date de la finale du tableau messieurs. Mais qui sera le deuxième homme de ce tournoi? Alexander Zverev ou Arthur Fils? Sarah.
On a répondu à la question.
Arthur Fils.
Pourquoi tu bougonnes?
La prestation d'Alexander Zverev. Elle est extrêmement décevante et que quand ça doit compter, pour l'instant, Zverev est souvent décevant. Mais... Il n'est pas au combat, quoi.
Oui, mais jamais là face à Sinner et Alcaraz.
Oui, mais ouais. Le problème, c'est que dans la question que pose Anthony, c'est qui sera là en finale. Zverev, avec son tableau, il peut se retrouver en finale.
Bien sûr.
Donc
Oui, non, mais là, on parle de celui qui va gagner. On ne parle pas de l'affiche de la finale. T'as raison.
Non, on parle du deuxième homme
du tournoi. Moi, pour répondre.
Deuxième homme, c'est celui qui va en finale pour vous?
Ouais, qui peut.
Il y a une histoire de tableau encore.
Ouais, il y a une histoire de tableau. Mais pour moi, s'il y a un deuxième homme, j'espère que ce sera Arthur Fils. Mais pour moi, c'est ni l'un ni l'autre. S'il y a un deuxième homme à mettre, c'est Djokovic.
Comme ça fait deux fois.
Pour moi, c'est Djokovic.
Ça fait deux fois qu'il est dans la partie de Sinner là, sur les tournois, puisqu'il est dans la même partie à Rome. Allez,
exactement.
Et ben, il ne sera pas dans la partie de
l'argument,
de Sinner,
l'argument que vient de donner Marion en disant de là à gagner 3-7 contre Sinner, en fait, je tiens exactement le même pour Djokovic. Bien aujourd'hui, sûr. Quel joueur de tennis est capable de battre Djokovic en Grand Chelem? Il y en a combien dans le tableau final?
Deux. Alcaraz et Sinner. Il en reste plus qu'un.
L'année dernière, il a fait les 4 demi.
Mais
cette année, il est en finale.
Mais on est tellement d'accord.
Il faut tellement bien jouer au tennis pour battre Djokovic en Grand Chelem. Mais c'est monstrueux.
Et vous n'avez pas peur avec son âge? Parce que l'année dernière, on l'a vu un petit peu quand même. Sur Terre, il a fait une grosse perf en quart et après, il a coincé un petit peu.
Oui,
est-ce qu'il pourrait tenir sur les 5?
Moi, je pense qu'il est dans le formol et dans le frigo, là. Oui.
Mais oui, mais regarde son quart Roland contre Zverev l'année dernière, c'est une démonstration de tennis. Il te glisse service volé à droite, service slicé, des volets déposés de l'autre côté, il te l'a fait 15 fois. Sacha, il reste tout le temps dans la même position, il n'en bouge pas. Novak, il te fait 15 fois la même. Il arrive à avoir une telle expérience aujourd'hui, une telle capacité de gestion de ses efforts. Ça là-dessus, je te rejoins totalement, Julien, et pour en discuter chaque année avec Joe, qui l'a affronté je ne sais pas combien de fois en Grand Chelem. Quand il ne faut pas te rater une balle, il ne va pas te rater une balle. Je pense qu'il faut vraiment faire une différence entre le Novak des Master 1000 et des autres tournois et le Novak configuration Grand Chelem.
Il y a deux ans.
Rien à voir.
Il y a deux ans. Alors, ce n'était pas une configuration Grand Chelem, mais il y a un petit peu moins de deux ans. Il a gagné. Voilà. Il a gagné les jeux.
En étant blessé.
Il a quand même gagné.
En étant blessé. Enfin, en tout cas, en étant avec son genou
sur la médaille d'or.
Alcaraz.
Et Alcaraz.
C'est lunaire.
Éric Thibault, franchement. Moi, je ne sais pas où il en est, Djoko. Personne ne le sait. Même peut-être lui ne le sait pas. Parce qu'il y a quand même eu suspicion de blessure à l'épaule. Donc là, le test du Foro Italico va être très important. S'il ne gagne pas un match en Italie, je l'éjecte.
Il a tapé avec Arthur Fils aujourd'hui.
Oui,
il a encore jeûné.
Il a tapé à l'entraînement et joué en compète.
Il faut qu'il fasse quelques matchs quand même, je suis d'accord.
Ça va être très intéressant, les performances de Novak Djokovic à scruter sur ce Masters 1000 italien. Et on va voir peut-être une petite montée en puissance. En tout cas, il y aura des repères qui seront pris en vue de Roland-Garros. Merci Marion d'être venue faire un petit coucou à cours numéro 1.
Avec grand plaisir, les amis.
C'était chouette de t'avoir.
Quand vous voulez.
Avec grand plaisir. De toute façon, on se recroisera à Roland dans les allées, comme d'habitude. Hein.
Tu vas préparer tes petites robes, Marion, là, pour les.
La garde-robe est prête.
C'est prêt
J'ai toutes mes tenues, là, tu vas voir. Je vais être au taquet.
Merci, Marion. À très vite. Les copains, on enchaîne. Parce que, évidemment, on parle d'Arthur Fils. Mais en fait, vous avez remarqué, on ne parle que d'Arthur Fils en chance française ces derniers temps. Et surtout sur Terre. Ce qui nous amène à un débat suggéré par notre excellent Rico. Pourquoi est-on si mauvais ces dernières années sur Terre? Quand on prend les statistiques, Eric, c'est flagrant et c'est éloquent.
Je surfais le palmarès de Roland, les enfants. Sur les 30 dernières éditions, 19 ont été remportées par des Espagnols. Et si on rajoute Gaudio, donc ça fait 20, parce que ça parle
20
espagnol.
20 sur combien?
20 sur les 30 dernières.
20 sur les 30 dernières.
Oui, donc, oui. Mais cette stat, comme elle pèse, ça n'existe pas les autres grands chelems, vous êtes d'accord avec moi?
Mais il n'existe pas de Nadal, donc
voilà.
Oui, forcément.
Mais quand même, Non, mais on n'est pas bon. On n'est pas
sur
bon.
Les sur les 30 derniers, tu as 4-5, tu as 5-6 hispaniques. Voilà. Tu as Nadal, Gaudio,
Ferrero,
Moya, Curten.
Et si tu vas encore plus loin, tu as Bruguera aussi.
Et Bruguera, oui, bien sûr. Voilà.
Et ils savent jouer sur Terre. Le problème, c'est qu'ils sont nés sur Terre.
Oui. Alors,
c'est le sentiment que j'ai. Et vous, vous n'êtes pas nés sur Terre.
Non, alors.
Ancien.
On aurait fait ce débat ou ce podcast il y a 20 ans. J'aurais été complètement d'accord avec toi. Parce qu'il y avait vraiment des spécialistes de terre battue. Aujourd'hui, le jeu s'est uniformisé. Djokovic, il gagne Roland. Il joue limite pareil que s'il joue à l'US Open, tu vois.
Ouais, c'est vrai.
Il n'est pas 3 mètres derrière. Nous, quand on passait sur Terre, c'était allez, on met de la trajectoire, on joue haut, bombé, lifté, dans la diagonale, on glisse. Et c'est important de savoir le faire. Mais aujourd'hui, il y a Andy Murray, il a eu des super résultats à Roland.
C'est pas un terrien.
D'accord.
C'est pas
donc, bah lui, il a grandi sur gazon en plus, certes.
Donc, je.
Mais, après... Mais néanmoins, quand tu joues des petits sur terre, ça a aussi une incidence quelque part. Non, c'est un peu le là où le bas blesse en France.
On en a gagné des tournois sur terre. On en a gagné des tournois. On n'a pas gagné le Grand Chelem. Mais les Français,
il y a les Barcelone là déjà.
Ils ont gagné sur terre battue.
Ouais. Donc, oui, bien sûr.
Le dernier Français qui a gagné un Masters 1000 sur terre.
Non.
Eric Pioline, non ouais. À Monaco.
Ouais.
Date.
Oui, et c'était même un lundi, je crois. Il avait plu.
Oui, exact.
Et c'était même. Tu sais quoi
je Donc crois, ça compte double.
Oui, et c'était même avec un.
Tu crois qu'ils ont fait la finale sur le 2 là-bas avec la toile
Avec la toile, oui. Ah oui. Je me souviens de ces images-là. Je me souviens de ces images-là. En plus, tu vois, c'était dur, c'était terre battue couvert. Oui, et puis après, il y a aussi, un positionnement de la fédération. C'est-à-dire que je ne suis pas sûre que ce soit le rôle d'une fédération, et même s'il y a des présidents qui en ont parlé comme ça, est-ce que c'est à une fédération de construire un vainqueur de Roland-Garros ? Est-ce que c'est la première mission ? C'est parce qu'en fait, notre fédération, elle est propriétaire de son propre tournoi, mais...
Oui, mais tu dois.
Oui, mais la fédération, il y a un moment, elle peut te faire naître sur terre battue. Ok, tu peux jouer plus.
Oui, mais regarde les Anglais. Les Anglais, ils ont évidemment. Ouais,
ils n'ont pas des tournois sur gazon à longueur de temps.
Non,
oui, Murray
mais
ils ont
leurs installations d'entraînement.
Le gazon, c'est tellement particulier. Puis
mais
le gazon,
d'accord, mais ils ont quand même accès en Angleterre la formation là-dessus. Nous, on a quand
mais
même
nous, on
un chelem.
Mais nous,
et en France, il y a 17% de terre battue sur l'ensemble des cours dans les clubs.
Mais parce que ça coûte cher.
Je suis désolé.
On était à la présentation de Roland Garros. À quoi 2-3 semaines.
Ouais,
discours d'introduction de Gilles Moreton, c'est ça. Il est allé directement sur ce sujet.
Ouais,
on a de moins en moins de terres battues. Et on va financer, on va aider les clubs à construire des terres, mais c'est des terres battues synthétiques. Je suis désolé, c'est pas la même chose.
Oui, mais ça coûte cher. Et puis, il faut former des personnes pour l'entretenir. Parce que tu l'as fait, ta terre battue. Mais ta terre battue extérieure, elle est soumise aux intempéries. Et pour qu'elle reste, parce que sinon, si tu dois la faire chaque année, c'est pas les spécialistes techniciens de Roland-Garros qui font des terres battues au fin fond d'Aurillac ou au fin fond de Bayonne.
D'accord.
C'est-à-dire que je veux dire, il y a un moment, un club de tennis.
Moi, j'ai débuté à Jullouville-les-Pins, il y avait des terres.
Ouais, pareil, j'ai grandi.
C'est pour ça que tu as gagné Monte Carlo cette année.
Mais oui.
L'aboutissement de sa carrière.
Oh oui, non, t'inquiète pas, il nous en parle à chaque fois. Non, mais de manière générale et de manière plus globale, au-delà du vieux serpent de mer du centre national dans le sud, etc., de pouvoir faire jouer les plus jeunes sur terre battue le plus souvent possible,
exactement.
Soit couvert ou découvert en fonction de là où on est en France. Ça forme beaucoup plus. On doit être plus exigeant sur le jeu de jambes quand on joue sur terre battue. On doit faire plus d'efforts pour que la qualité de la balle et la qualité de la frappe soient très bonnes. C'est pas pareil que quand on joue sur dur indoor où la balle elle rebondit toujours à la même hauteur, à la bonne hauteur et qu'elle vient à vous. On a moins d'efforts à faire dans le combat aussi. Quand on joue contre quelqu'un sur terre battue, le point est peut-être un peu plus long. On doit le travailler un petit peu plus. Donc dans le combat physique et dans le combat mental.
En fait, si tu te formes sur terre battue,
t'es fort pour être partout.
Tu deviens, tu te construis comme un meilleur joueur de tennis.
Je pense.
Si tu es bon sur terre battue, selon toi, c'est ce que j'allais dire.
Aujourd'hui,
en fait, tu peux être bon partout.
Aujourd'hui, oui, parce qu'à l'époque, je me souviens, Albert Costa, il gagne Roland. Il gagne 0 match dans sa carrière en indoor. À un moment donné, quand on arrive à l'ancien Grand Prix. Les tournois qu'on avait, comme le Grand Prix de Lyon, Bercy, etc., c'était sur le fameux Taraflex de l'époque. Oh là. Où le rebond allait très bas, très vite. Et là, il y avait une vraie différence. Et les vrais terriens, une fois que l'US Open était terminé, il n'y avait pas l'Asie en extérieur, etc. c'était terminé, les vrais terriens. On ne les voyait plus.
Ouais. Une année en Coupe Davis, on reçoit les Espagnols à Clermont-Ferrand.
Au mois de juillet.
La Fédé avait ressorti le tarafet du CNE. Les mecs étaient paumés. Ils n'avaient plus joué. 3-0 le samedi soir, c'est fini.
Ouais, Gaël, il avait battu Ferrer 8-6-5e. C'est l'un des plus grands matchs de Coupe Davis que j'ai jamais vu faire.
C'est pas faux.
C'était la vraie Coupe Davis.
Mais les mecs, c'était plein.
Mais bien sûr. Mais...
Ils voulaient déposer réclamation aux Espagnols.
Mais c'était. Et donc, pour revenir, oui, essayer de jouer de plus en plus sur terre battue dès le plus jeune âge, dès que c'est possible. Ça, je pense. Et que c'est important. Parce que, oui, on forme de manière globale. Un joueur ou une joueuse tennistiquement, mentalement et physiquement sur cette
surface. Est-ce que c'est le discours que tu tiens à ton fils Ayrton?
Exactement. De plus en plus.
Regardez là les résultats
il
de
a
cette saison.
Ans, c'est...
Oui, vas-y. J'essaye.
Là, si on prend juste les bons résultats de cette saison sur terre, en fait, hormis Arthur Fils,
ouais.
C'est il n'y a personne en huitième de finale dans les Masters 1000. Mais ça... Chez les garçons, chez les filles, il n'y a eu que Léolia Jean-Jean qui s'est hissé. Alors, il n'y a eu qu'un Masters 1000, évidemment, à Madrid. À Stuttgart, zéro française dans le tableau final. C'est désolant. Et je reprends toujours l'exemple de Hugo Humbert qui nous avait dit, quand il est arrivé sur le circuit, moi j'ai grandi sur terre raflée, j'ai grandi sur surface rapide. Ah oui, la terre battue, je ne connais pas. Quoi. Enfin, j'exagère évidemment, mais on voit la difficulté d'adaptation de Hugo Humbert qui est un excellent joueur de tennis sur terre dès qu'il arrive
Roland.
Au printemps.
C'est pas possible qu'il gagne Roland.
Exactement.
Désolé. Après, Arthur Fils, il a le même modèle de formation, il est plus à l'aise sur terre aussi.
Il a des qualités peut-être physiques.
Alors, les qualités physiques, peut-être que là où il était élevé au tout début, dans son club, il y avait peut-être des terres battues. Là où Hugo, dans l'est de la France, il joue souvent
sur bois,
sur Matéflex. À un moment donné, ça jouait sur moquette. Il y a encore des moquettes à Strasbourg ou à Mulhouse, des greensets un peu usés, etc. Mais c'est sûr que. Ouais, ou qu'on arrive à jouer sur terre. Et ce n'est pas pour rien que souvent, dans les saisons des Français, il y a parfois, ces derniers temps, c'était moins, mais on avait à un moment donné des bons résultats à Roland-Garros, je parle de 2008-2005, plutôt qu'au début de la saison, parce qu'on arrivait à Roland-Garros, il y avait eu 5-6 semaines de terre battue déjà. Et ouais. Que les résultats de Roland-Garros ne sont pas du tout les mêmes. Que
nous, on était ravis, hein, quand on avait beaucoup de travail en deuxième semaine.
Que les résultats de Monte-Carlo.
Hein, Morico ?
C'est vrai.
T'as pas d'anecdote aujourd'hui, Morico ?
Non, mais à Roland, parfois, ils mettent de la paille sur les terres battues pour les garder. Puis dès qu'il fait un peu beau, hop, ils enlèvent la paille et tu peux jouer dessus.
Mmh. Mais on en revient à la même chose, c'est-à-dire que l'entretien du terrain de terre battue du club en France, c'est très, très compliqué.
C'est très contraignant.
Contraignant, ouais. et c'est coûteux, c'est en coûteux. Fait.
C'est coûteux.
C'est coûteux, donc c'est sûr que...
Ça nécessite deux entretiens sur la saison, il faut qu'une personne dédiée à ça, c'est de l'organisation.
C'est vrai, c'est que sûr. De dire que les plus jeunes, ou en tout cas les meilleurs de chaque catégorie, si on peut multiplier les stages sur terre battue, s'il peut y avoir un centre fédéral sur terre battue...
C'est le projet actuel.
Qui est ouvert au tout venant, en tout venant, c'est-à-dire qu'à celui qui veut aller vers le haut niveau pour venir s'entraîner, c'est sûr que c'est quelque chose qui est indispensable. Parce qu'on dit terre battue, même indoor, mais la vérité, c'est d'aller jouer.
Jouer dehors, dans le vent.
Dans le vent. Topeten, Eric, Topeten. Dans le vent.
C'est rien. Richard, il est Topeten. Voilà. Dans le vent.
Ah, il a fallu l'imitation, évidemment. On va terminer cet épisode, on va dire spécial Roland-Garros, les amis, avec le tu préfères, initié par notre excellent producteur Flavien Ziolkowski, qui est dans nos oreilles aujourd'hui, exceptionnellement.
J'ai le droit de dire que j'ai quand même eu du mal à comprendre.
Alors, je vais te le réexpliquer de façon didactique, Sarah.
Oui, parce
qu'on
l'a déjà fait, mais franchement, j'ai eu du mal à comprendre.
C'est une sorte de quiz.
Oui.
Nous allons donc simuler le tu préfères de la terre battue pour désigner un peu le goat de la terre. Donc, on prend un tableau, comme si c'était Roland-Garros. On va le commencer au huitième de finale. Je vais vous donner chaque affiche des huitièmes. Sur chaque affiche, vous me donnez le vainqueur. C'est multigénérationnel. Chaque vainqueur, ensuite, je les reporterai. Et ça vous permettra de désigner le vainqueur de Roland-Garros.
En gros,
de cours numéro 1.
Tu peux avoir dans ton tableau, tu peux avoir une finale Nadal-Kuerten.
Exactement. Par exemple.
Tu l'as résumé.
Ouais, c'est t'y es.
Ben, tu vois, sais quoi. Ouais, il a compris. Plus intelligent que moi. Si, j'ai compris. Bon. Mais moi, je sais que je mettrai Kuerten quoi qu'il arrive.
Alors là, attention. Premier huitième de finale.
Cœur qui parle.
Attention.
On t'a pas flirté avec.
Haut du tableau. On est dans le haut du tableau. Raphaël Nadal, Mats Wilander.
Bah Nadal.
Nadal.
Sorry Mats.
Deuxième huitième de finale. Roger Federer, Guillermo Vilas.
Bon, comment tu veux qu'on se projette? Je vais mettre Federer.
Bah, projette-toi.
Guillermo Vilas, parce que j'ai eu la chance d'échanger quelques balles avec lui.
Federer.
Et crois-moi, j'ai pris son lift, je n'arrivais pas à contrôler la balle.
Non, Federer.
C'est pas possible, les vitesses de jeu, elles sont trop différentes.
Donne la raquette de Federer à Villas, Villas gagne.
Non.
Ça, c'est la punchline de l'épisode.
Peut-être à Rafa. Mais à Roger, je pense qu'une raquette en boîte ou boyau, il était, à mon avis, il serait frisé longtemps à Wim.
Tu m'étonnes. Troisième, huitième de finale. Attention, écoute bien. Gustavo Kuerten, Stan Wawrinka.
Ah, là, c'est pas facile.
Beau match.
Elle affiche. Hein.
Ah, oui. Quelle diagonale de revers.
On l'a concocté avec
Guga, il a gagné trois fois Roland, les gars.
Bah ouais, je mets Guga, mais franchement, là, ce match.
Ah, c'est dur. C'est un gros match. Hein.
Celui-là, je veux bien le voir.
Night Session.
Ouais.
Guga, ouais.
Guga. Ah, Guga, 100%. Quatrième, Bjorn Borg, André Agassi.
Agassi, non mais. Non mais. Moi, Bjorn Borg, je ne l'ai pas vu jouer, c'est comme Villa, je suis trop jeune.
Moi aussi, je suis trop jeune, mais Borg, Borg il est si fort Roland, le mec.
Dans mon club du TC Flair, j'avais.
Pourquoi tu ne mets pas Edberg
Pro,
C'est l'anecdote.
J'avais. Oui, c'est l'anecdote.
Anecdote, attends.
Alors, je vais la raconter, l'anecdote.
Mais ça n'a rien à foutre, moi, cette anecdote.
J'ai oublié son nom, comment elle s'appelle. Oh, c'est pas grave. Bon, en tout cas, elle a gagné. Alors, je me souviens très bien de son nom.
C'est un génie.
Je peux même la citer. Elle s'appelle Catherine Buffard. Nous avons été champions de l'Orne minime la même année. Et donc. Catherine Buffard était amoureuse de Bjorn Borg. Elle avait la tenue de Bjorn Borg, la raquette. Elle avait les pansements de Bjorn Borg. C'était extraordinaire. Donc, je joue Bjorn Borg.
Et ça me rappelle des souvenirs. C'est Madame de Proust.
Oh là là, on a eu l'anecdote. Ah, ça y est, je l'attendais. Magnifique. Merci, Morico, pour ce moment suspendu. Cinquième, huitième de finale. Ivan Lendl, Yannick Sinner.
Ah, j'aimais pas. Je veux Sinner.
Ah bah oui, ça, j'en étais sûr.
Lendl, il a gagné trois fois Roland.
Dire que j'avais une chemisette de Lendl avec les losanges, mais non, je vais jouer Sinner.
Allez, on met Yannick aussi.
Allez, Sinner, parfait. Sixième, huitième de finale. Pas mal, celui-là aussi. Bruguera, Carlos Alcaraz.
Carlitos.
Chiant, Bruguera.
Ouais. Ah, Bruguera. Ouais. Septième, Juan Carlos Ferrero. Vous n'êtes pas prêt là. Yannick Noah.
Ah, moi, je vais mettre Ferrero, parce que comme ça, en quart, il joue Alcaraz dans ton tableau. Non ?
Non.
Ah bon ? Ferrero, Noah, putain, c'est deux. Bah non, mais Yannick, ils ont gagné qu'une fois Roland, tous les deux.
Ouais. Allez, Yannick.
Yannick.
Donc Yannick.
Ouais, Yannick.
Ah, ça sera Yannick contre Yannick.
Un mec offensif, quand même, dans le tableau.
Ouais.
Et dernier huitième, Michael Chang, Novak Djokovic. Oh.
Le Djoko. Djoko.
Ouais, Djoko.
Ah, nous passons au quart.
Mais dis donc, le service à la cuillère de Chang sur Djoko.
Ah.
L'autre, il aurait pu péter une durite, hein, Djoko, quand même. Hein.
Ah oui, mais bien sûr, ça aurait été génial. Ouais. T'imagines la séquence après, c'est pas qu'il serait parti au Richard un quart d'heure.
Imagine Enrico Macias qui applaudit dans les tribunes, là.
quart de finale.
Vas-y. Ah.
Nadal, Federer.
Déjà.
Bah, déjà.
Bah écoutez, bah, copains,
c'est Nadal. Ah oui, mon temps Rémi, Rod.
Et voilà.
Mais c'est il l'a battu qu'une fois, c'était Hambourg, sur Terre, non ?
Fed. Ah ouais, peut-être.
Oui, la seule il semble fois, qu'il y ait oui, une seule victoire. Deuxième quart de finale, Guga, Borg.
Guga.
Il est beau ce quart.
Ouais, bon, pas mal à voir.
Non,
ça.
Non, Guga.
Borg.
Troisième quart.
Borg aussi.
Ah,
mais non.
Ah, mais ça c'est
oui, parce que. Sais, Sarah, mais sais, oui, mais le Guga Nadal, il aurait
en fait,
génial.
Ça aurait dû être la finale.
Mais
Nadal Borg.
Nadal Guga Nadal, franchement, je veux m'asseoir dans les tribunes, je veux le voir ce match. C'est, ça peut être juste fantastique.
Tu crois pas qu'il explose en revers, Guga?
Bah peut-être, mais pourquoi il exploserait plus
là-haut là?
Oui, d'accord, mais comme Federer, mais. Mais moi, j'ai plus envie de voir un Guga Nadal qu'un Borg Nadal.
Mais
c'est
la loi de la majorité. Ce que femme ça, veut, femme obtient en général.
Que quoi ?
Ce que femme veut, femme obtient en général.
Absolument.
On peut mettre Guga si vous voulez.
Ah, voilà, t'as vu comment t'as renversé
merci,
Julien ?
Merci, Bennett.
Ah, merci, Bennett. Excellent. Troisième quart, Sinner Alcaraz.
Ouh, en Roland. Bah, Alcaraz pour l'instant. Vu la finale de l'année dernière.
En 5-7 et en 4h32.
Ah, là, quel excès.
Ah, Eric. Il a le poignet en vrac, mais
Sinner.
Non, mais.
Pas sur la.
Sinner.
Sinner
c'est pas aujourd'hui.
Oh là là, Sinner.
Bah
Sinner
oui, mais
passe
c'est la semaine prochaine. Enfin, la semaine
donc,
prochaine, c'est dans les années à venir.
Noah Djokovic.
Bah, Djoko. Tu peux pas mettre Yannick.
4h05 de service volé.
Je sais pas.
Et le chip and charge.
Ouais, vu le retour de Djoko.
Il a intérêt à réfléchir.
Il
va prendre quelques passes.
Il a intérêt à aller très vite au filet.
Djoko.
Ouais.
Allez, Djoko.
Vas-y. Donc là, on est en demi.
Nous sommes en demi. Nadal, Guga.
Nadal. Nadal qui gagne.
Nadal qui gagne.
En 5-7, 4-7.
Il explose.
Il perd un 7.
4-7.
4-7, il perd un 7.
4-7, oh oui, il perd un 7.
C'est dans le vestiaire.
Et là,
Sinner-Djoko. Mais ils se sont déjà joués, Sinner Djoko.
T'imagines un tableau comme ça, Sinner, là, cette année?
À Roland?
Ils ne sont jamais joués. Mais non.
Attends.
Djoko, il a gagné combien de fois, Roland?
Trois fois.
Mais je crois qu'ils ne se sont jamais joués.
Trois fois.
Ils sont joués à Wim ou à Roland? J'ai un trou de mémoire, là, l'an passé.
Qui ça?
Djoko et Sinner.
Bah si, c'est la.
Il fait demi face à Sinner.
Oui, c'est ça,
oui. Oui, Sinner bat Djokovic l'année dernière en 3-7.
Ouais, car face à Zverev et...
Ouais, Sinner.
Ah, Sinner.
Sinner. Et donc, nous arrivons.
On efface vite Djoko.
Vous avez vite effacé Djoko alors qu'on vient de dire qu'il était deuxième homme de Roland Garros 2026.
Bon.
Sinner-Nadal.
La finale, Raphaël Nadal, Yannick Sinner.
Rafa, vous vous rendez pas compte.
Mais c'est ton idole.
Non, mais...
Il m'ennuyait un peu. J'ai l'impression que
essayez d'imaginer Rafa à son prime contre Sinner à son prime.
Mais c'est là où c'est.
Ah, la lourdeur de la balle de Rafa, ça doit être quelque chose. Même Sinner, il doit aller à la pêche là.
Ouais.
Il a un tel timing. Ça peut être un super match.
Sinner, il est capable de faire des revers sautés.
Franchement, c'est un super match aussi à voir ça.
Mais comme ça dure plus de 3h50.
Ah oui.
Pour l'instant, il nous a pas fait mentir, Sinner. Donc on met Nadal.
Je joue Nadal. Donc le GOAT de la Terre. Pour cours numéro 1, ça reste Raphaël Nadal.
Bah là, tu sais quoi? Je crois qu'on n'avait pas besoin de faire le quiz pour te dire que Nadal, c'était le GOAT de la Terre battue. Ça fait 20 ans qu'on le sait.
Ça s'est joué à peu de choses.
Tout le monde a joué Rafa. Moi, j'hésite.
Non, on a joué Rafa.
Eh bien, on va rester sur ces bonnes paroles. On n'oublie pas Raphaël Nadal, même s'il est loin des cours maintenant. Il agite des drapeaux à damier du côté de Miami. Mais c'est toujours le GOAT de la terre battue aussi pour nous. Merci les copains pour cet épisode spécial.
Merci à vous.
En direct des Champs-Élysées.
Il va embrasser sa plaque à Roland. Là.
Ah oui, il va falloir t'y aille là.
Ouais, on a le droit maintenant.
Bah quand même, ça serait bien.
En tant que vainqueur de Master Mind.
Merci les copains, à très bientôt sur RMC. Ciao.
RMC, cours numéro 1.